Kevin Laforêt, bonsoir.
Bonsoir Hugo, ça va bien?
Ça va toi?
Oui, super.
Écoute, on se retrouve by night, comme on l'a déjà mentionné, donc épisode nocturne. Ça tombe bien, c'est la fin de notre duo Halloween, donc de 2023. Donc évidemment, une thématique nocturne, c'est tout à fait approprié. Avant qu'on se lance dans le film de cette semaine, Kevin, j'aimerais te demander, es-tu accro au cinéma?
Ah, quel excellent jeu de mots, mais oui, je dirais que oui.
Écoute, j'ai cherché autant comme autant à faire un gag plus élaboré que ça, puis finalement, il n'y a rien qui m'est venu. Bref, alors on se retrouve, donc on avait fait la dernière fois Phantom of the Paradise, un film un peu beaucoup psychédélique des années 70, avec une adaptation justement un peu sur la substance du fantôme de l'opéra, avec toutes sortes d'autres choses. Et là, on se retrouve pour parler de ce qui est en fait une adaptation d'une œuvre encore plus, à peu près le même âge, même type d'œuvre que le fantôme de l'opéra, à peu près la même époque. Donc, on a une adaptation, je te dirais, partielle, ou en tout cas complémentaire, c'est, on pourra évidemment discuter, de Nosferatu, donc le film des années 20. Excellent film d'ailleurs, évidemment, qui a vieilli, parce que bon, les techniques, les caméras n'étaient pas les mêmes, bien sûr, même à l'époque.
À la base, ça vient du roman Dracula de Bram Stoker. Là,
oui, oui, absolument. Donc, on remonte même au 19e siècle. Ce qui arrive pas souvent au cinéma parce qu'évidemment, au 19e siècle, ça n'existait pas. Bref, voilà. Donc, on se transporte presque un siècle et demi en arrière pour le film qu'on a écouté cette semaine. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin?
On a vu The Last Voyage of the Demeter.
Effectivement, The Last Voyage of the Demeter. Il y a également un autre titre qui s'appelle Dracula 2. Voyage of the Demeter, au cas où si c'était pas assez subtil, assez évident comme thématique, on vous met ça directement dans le titre, qui est un film donc de vampires. Film de vampire, donc qui se passe, et je vais essayer de résumer rapidement sans donner trop d'informations, puis j'y pensais à ça tantôt, je revenais du bureau en vélo, puis je me disais comment est-ce qu'on va présenter certains aspects du film sans tomber dans les divulgâcheurs, et je me suis dit que en fait ça allait être très difficile, en tout cas certaines choses que moi je voulais aborder, très difficile d'en parler sans divulgâcher certaines choses, donc ce qu'on va faire, on va faire rapidement le critique rapide, sans divulgâcheur, chacun de notre côté. Et ensuite, on plongera, on vous fera un petit avertissement sonore. Évidemment, c'est un podcast, c'est pas d'autre type d'avertissement. On vous fera un petit avertissement, puis là, on tombera dans les divulgâcheurs. Donc, première minute, c'est ça va être le film, pas de spoilers, comme on dit en bon français. Et ensuite, on plongera là-dedans. Voyage of the Demeter, c'est... pour ceux qui ont lu ou peut-être qui n'ont pas lu Dracula de Bram Stoker ou qui n'ont pas vu Nosferatu ou d'autres films basés sur le même genre de la même histoire, Dracula qui est en Roumanie, qui est un vampire évidemment en Roumanie et qui éventuellement quitte son château de Roumanie pour se rendre en Angleterre parce que bon, il a mordu tout le monde en Roumanie dans son coin en Transylvanie et il dit bon ben ça goûte tout pareil, on va changer un peu, j'ai goût de manger exotique ce soir. Et donc je m'en vais en Angleterre et dans le livre, ça fait longtemps que j'ai lu Dracula, mais je me souviens que dans le film dans Nosferatu, il y a une série de scènes où le cercueil de Dracula est transporté par bateau. Donc, parce qu'évidemment, c'est pas mal la méthode la plus efficace pour se rendre de la Roumanie à l'Angleterre, c'est de prendre le navire. Et donc, The Last Voyage of the Demeter, c'est l'histoire de ce passage-là sur les mers, donc la Méditerranée, et ensuite l'Atlantique, bien sûr. Et dans le film, dans le livre, je pense que c'est assez résumé, assez succinctement, c'est-à-dire, s'il est transporté par bateau, il arrive en Angleterre, puis là, il se passe d'autres choses. Et là, on a décidé, semble-t-il, les gens de, je ne sais plus quelle maison de production, mais ont décidé de creuser Universal Pictures. Donc, ils ont décidé de creuser ça en disant, il y a matière à faire un film avec cette séquence-là. Donc voilà, c'est Dallas Voyage of the Demeter. Comme je disais, on va faire une courte critique avant d'aller dans les divulgâcheurs. Qu'est-ce que tu as pensé du film, Kevin?
Personnellement, j'ai pas beaucoup aimé ce film. Je trouve qu'il y a des qualités, surtout au début. Comme on dit, c'est un film qui se passe sur un bateau, puis au début, on est comme dans un port, on se prépare à partir en mer. Et au début, ça a un côté presque Titanic. J'aimais ça quand même. Je trouvais que la reconstitution d'époque était bien faite. Puis le personnage principal, pas mal, c'est Clemens, qui est joué par Corey Hawkins, qui veut s'engager pour faire partie de l'équipage du Déméter. Puis toutes ces petites scènes-là, au début, j'étais comme « OK, c'est intéressant. » Puis on arrive dans le bateau, puis on voit tout le fonctionnement. On se promène à travers le bateau, puis c'était bien. Puis bon, je savais que c'était une histoire de Dracula, mais à partir du moment qu'on tombe un peu plus dans l'horreur, je sais pas, je trouve que c'est atmosphérique, c'est sombre, tout ça, mais est-ce que c'est trop sombre? Est-ce que c'est trop lent, répétitif? Puis bon, on pourra en parler plus, mais assez rapidement, pendant la traversée en bateau, le film m'a un peu perdu, là. Je sais pas, toi, là?
Ben, écoute, je te dirais que j'ai apprécié, tu disais le mot répétitif et je suis assez d'accord là-dessus. Et je pense que ça souffre, ce film-là souffre du fait que la fin est connue. C'est-à-dire, le film commence avec la fin en disant le bateau s'échoue sur les côtes anglaises et là, plus personne à bord. Et en fait, tout le film est un flashback. Donc, il nous explique, bon, à travers le journal de bord du capitaine, nous explique qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé et, ultimement, bon, qu'est-ce qui a mené à ce naufrage-là. Et c'est ça, le fait qu'on le sait, en fait, que Dracula va survivre. C'est indiqué rapidement, on le sait. Donc, à partir de là, c'est qu'est-ce qui va se passer, mais en sachant clairement que les bons vont pas gagner dans le film. Donc, ça coupe déjà un peu le suspense. Et là, tout ce qu'on attend, c'est comment est-ce qu'ils vont mourir, quand est-ce qu'ils vont mourir, est-ce qu'ils vont réussir à se sauver dans une chaloupe, hein, quelque chose, vont-ils sauter à l'eau, et c'est ça, ça réduit d'autant le suspense. Et je trouve aussi que ce film-là, comme tu as dit, très atmosphérique, mais semble pas savoir quoi faire de son méchant et de ses personnages. Je pense que j'aurais pris plus de longueur. Parce que, encore une fois, quand on sait que il va se passer des choses, puis qu'il y a des personnages qui vont mourir, puis bon, Dracula, il mange du bois du sang, donc on se doute bien qu'il va se payer la traite quelquefois à travers les membres de l'équipage. Et là, tu te dis, bon, ben, t'attends juste qu'il se passe ça. Donc, même si, il y a certains moments, j'ai été surpris de l'audace, un peu, pour ce qui est de la violence, pour ce qui est de... justement, cette idée-là de phénomène complètement incompréhensible. Donc, certaines bonnes choses, mais je pense que le corps du récit est absent. Et on aurait peut-être pu en faire quelque chose de vraiment psychologique. Des gens qui deviennent fous peu à peu parce que là, ils deviennent parano. Il y a un petit peu de ça, mais on a préféré en faire une espèce de slasher. Et ça devient redondant rapidement. Donc, c'est un peu ça, en tout cas, c'est un peu comme ça que moi,
j'ai perçu. C'est ça. Je pense qu'on est pas mal d'accord. Puis, tu sais, ce que tu mentionnes sur le fait que, tu sais, c'est un peu comme un genre d'antépisode. Ça se passe avant le gros de l'histoire qu'on connaît de Dracula. Puis, comme tu dis, ça fait que on peut pas se dire « Ah, est-ce que les héros vont réussir à tuer Dracula? » Nanana. On sait que Dracula va se rendre en Angleterre puis continuer à faire à boire du sang, à faire des victimes. Donc c'est ça, il y a comme un peu pas de but au film. Tu sais, je sais que t'aimes beaucoup Star Wars, puis tu sais Star Wars sont forts pour situer des séries télé ou certains films qui se passent avant la saga principale. Donc on se retrouve tout le temps un peu avec ce problème là de quand t'écoutes mettons Rogue One, ben tu le sais qu'ils vont pas tuer Darth Vader parce que Darth Vader, il revient dans les films après. Fait que, tu sais, un peu un côté inutile dans ce genre d'histoire-là. Mais en même temps, il y a des exemples d'ailleurs, tu sais, Rogue One, c'était quand même un bon film, mais tu sais, il faut vraiment que tu réussisses à avoir, je sais pas, les personnages ou ce qui se passe, même si on connaît la fin, de réussir à rendre ça intéressant. Mais je pense pas que dans Last Voyage de Demeter, tu sais, j'ai trouvé les personnages assez plates, puis je me doutais pas mal ce qui allait leur arriver, puis en tant que tel, ça m'intéressait pas au moment présent de les suivre, là.
Ouais, je comprends ça. Écoute, on va pousser plus avant notre discussion, si tu veux bien, dans quelques instants, mais comme je disais, on va vraiment tomber dans les divulgateurs. Donc, rapidement, j'en déduis que tu recommandes pas vraiment là, de Last Voyage de Demeter.
Non, pas vraiment.
D'accord. J'avoue que, comme exercice de style, peut-être, puis oui, même là encore, c'est limité.
C'est quand même
là.
Bien réalisé, même oui. Si je dirais que c'est trop sombre, puis surtout mm-hmm. quand on tombe dans les scènes avec Dracula, les scènes d'horreur, moi, il y a vraiment des bouts, j'étais comme, OK, on voit pas grand-chose, là, c'est comme, c'est juste sombre, puis on voit qu'il y a quelque chose qui attaque, puis qu'il y a peut-être du sang qui revole, mais je sais pas, j'aurais aimé que ça soit plus clair visuellement, là.
Ben, clairement, il ne pouvait pas faire ça en plein jour. Ben, ça
non, c'est sûr. Dracula.
Bon, c'est ça. Donc, disons que c'est ça. Exercice, peut-être exercice de style, mais sinon, si vous voulez vraiment un film de vampire, bon, qui date, bien sûr, mais je le répète, Nosferatu, il y a des moments extraordinaires, il y a des moments où c'est un peu long. Mais évidemment, les films de vampire, il y en a un puis un autre, donc c'est peut-être difficile aujourd'hui, en 2023, de dire on fait un film de vampire classique.
Moi, j'aime beaucoup le Dracula de Coppola, qui mm-hmm. remonte aux années 90. Ça, je le recommanderais plus fortement.
Oui, ben ça aussi, c'est avec Keanu Reeves, c'est ça? C'est avec,
oui, oui.
Ah, misère. Ça, oui, je me souviens de ce film-là. Oui, c'était pas le meilleur de Keanu, mettons. C'était pas son pire, mais c'était pas son meilleur.
Il était pas nécessairement super bon en tant qu'acteur dans le film, oui. Mais la réalisation de ce film-là, ah ben oui. La direction artistique, tout ça, c'est vraiment oui. Spectaculaire. Là.
Voilà. Mais bon, ça a l'air qu'il y a une adaptation en jeu vidéo de ce film-là.
Ah ouais?
J'en reviens toujours pas, ça a l'air que c'était médiocre aussi.
Bon.
Bref, donc, c'est ça, c'est notre partie très critique rapide, pas de divulgateur. Voilà, donc, si vous voulez pas de spoilers, on vous dit merci d'avoir été là. Abonnez-vous à l'infolette, nanana. Bon, OK, voilà. Alors, on rentre dans notre section du vieux gâcheur. Parce que je voulais en faire une section à part, parce qu'il y a des moments donnés où, tu sais, je te disais, c'est un film qui cherche un peu quoi faire avec son scénario. Il y a plusieurs choses. D'abord, bon, tu parlais tantôt de Clemens, qui est noir, qui est joué par un acteur noir, un personnage noir, et qui est victime de racisme. Bon, on se doute bien que même surtout au 19e siècle, ça devait pas être extraordinaire pour les personnes noires qui essaient de se faire une place dans la société. Mais j'avais l'impression, puis je suis pas en train de dire que c'est un film woke ou quoi que ce soit, mais j'avais l'impression que ce problème-là, cette question-là de ce personnage-là est rejeté parce que à cause de la couleur de sa peau, ça avait pas de sa place dans un... Il y a un moment, tu sais, je peux comprendre au début qu'il cherche c'est un médecin, il cherche une job, puis ce qu'il arrive à trouver, c'est médecin de bord slash matelot sur une espèce de bateau qui est à veille de prendre, qui fait son dernier voyage, justement. Puis tu dis, OK, il l'a pas eu facile, puis tout ça. Mais je me rappelle, à la fin du film, presque tout le monde est mort, et ce personnage-là prend le temps de faire son petit laïus de « j'ai été victime de racisme alors que je cherchais un job un peu partout sur la planète ». Puis là, je me disais, il y a un monstre, là. Il y a un monstre que tu n'arrives pas à tuer, qui tue au moins une personne par soir, sinon plus. Et là, tu nous parles de discrimination, c'est comme...
Non, je suis d'accord que c'était pas vraiment à sa place, puis... Tu sais, c'est un peu drôle parce que, tu sais, souvent, il y a le cliché que dans les films d'horreur, c'est toujours le noir qui meurt en premier. Puis là, dans ce cas-ci, ben, tu sais, spoiler, seul qui meurt pas, c'est le noir. Fait que c'est un peu une inversion. Mais c'est ça, tout le côté de son statut un peu de victime de racisme, tout ça. Je sais pas à quel point c'était pertinent dans un film d'horreur qui est quand même assez classique, là. Puis,
oui.
Puis il y a aussi un personnage féminin qui est quand même important dans le film. Mm-hmm. Puis il y a un petit côté aussi un peu qu'on a l'impression que il fallait absolument, tu sais, souvent un équipage à cette époque-là, un équipage de bateau, tu sais, toutes les... L'équipage, c'est des hommes.
Oui.
Mais là, on a trouvé un moyen d'inclure un personnage féminin. Puis c'est un personnage qui est quand même un peu plus... c'est pas juste une victime. Parce que maintenant, tu peux pas faire un film où que la femme est juste une victime, qu'elle prend pas action. Donc, elle essaye, elle aussi, de combattre Dracula, tout ça. Fait que c'est ça. C'est un peu des attitudes 2023 qui ont essayé de plaquer dans un film...
Oui.
Qui se passe au 19e siècle.
Ben, je détestais pas le personnage féminin. Le personnage s'appelle Anna, qui, on comprend, est amenée là comme snack de Dracula, comme en cas, pour que quand il a soif pendant son voyage, il se réveille, puis il est dans la boîte à côté, dans la caisse à côté, puis bon, il mordille un peu. Puis elle nous montre d'ailleurs, à un moment donné, où elle montre toutes les morsures qu'elle a reçues. Puis il dit, OK, concept de, tu sais, il est en hibernation un peu, ou je sais pas trop, pour son voyage, mais il faut qu'il mange un peu pareil, je sais pas. Et, sauf qu'il y a un moment donné, elle expliquait que, elle disait, chaque fois que je me fais mordre, elle est placée dans une espèce de boîte où il y a de la terre de Roumanie, parce que bon, dans le monde des vampires, en tout cas dans cet univers-là de Bram Stoker, si t'es un vampire, il faut que tu dormes chaque soir dans ta terre natale. Un peu comme je pense qu'il y avait eu un cas à un moment donné de la royauté néerlandaise pendant la Deuxième Guerre mondiale qui était réfugiée au Canada et c'est une femme qui allait accoucher et elle a dit faut qu'elle ait la citoyenneté, donc on fait venir de la terre des Pays-Bas. Quelque chose de même. Je sais peut-être que je mélange des choses, mais bref, je me souviens qu'on fait venir de la terre parce que légalement, il fallait qu'elle soit en terre néerlandaise. C'est un peu absurde, mais bon, bref. Donc, Dracula, faut qu'il ait son snack. Mais là, je me disais, comment est-ce qu'elle a survie? Parce qu'il faudrait qu'elle se nourrisse, faudrait qu'elle boive, c'est une humaine, donc faudrait qu'elle mange quelque chose. Et là, elle dit, bon, ben, à chaque fois que je me fais mordre, il y a de la terre de Dracula qui rentre dans la plaie, puis ça me remplit. Je dis, pas de même que ça marche. En tout cas, il y a des incongruités comme ça, mais ce qui m'a surtout étonné, puis ça revient à mon thème de « ils savent pas quoi faire avec le scénario », à un moment donné, bon, ça fait quelques fois que les gens meurent, disparaissent, tout ça, puis ils disent « OK, on va vraiment fouiller partout dans la cale, on va essayer de trouver où est le monstre, clin d'œil, tu sais, clin d'œil, il est dans les boîtes avec un vampire, une chauve-souris dessus, là, c'est un peu, en tout cas, c'est pas très subtil, mais ils finissent par trouver où est-ce que Dracula dort, puis c'est effectivement une boîte avec de la terre de Roumanie et des vers de terre dedans, puis même la canne à pommeau de Dracula, et ils font rien avec ça. Puis, je sais pas toi, mais il me semble que dans un film, tu dis, on a trouvé la cachette du monstre, tu pognes la caisse, t'as garoche dans l'eau, je sais pas, t'essaies de faire quelque chose. T'avais-tu l'impression, toi aussi,
que c'était... Oui, non, c'est ça. Souvent, c'est ça qui se passe. On dirait que c'est... Il y a des scènes qui mènent à rien, puis, tu sais, la traversée, je pense qu'elle dure un mois, puis un mois, c'est quand même long. Puis, tu sais, je sais qu'ils sont en mer, ils peuvent pas nécessairement accoster ou se sauver ou quoi que ce soit, mais quand même, c'est bizarre que pendant des semaines, tu sais, un mois... Il n'y a rien vraiment qui soit tant fait pour essayer de battre ce monstre-là. On dirait que c'est comme, bon, ben quelqu'un meurt pratiquement chaque jour, puis on continue notre routine, puis qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est comme, je sais pas, c'est un peu bizarre.
Ben, au début, ils nous disent, ah, ben on veut garder notre bonus, fait qu'on va continuer notre voyage. Mais après ça, tu te dis, garde, la moitié du monde est mort, au diable le bonus, là, rentre au port, puis c'est pas vrai que tu peux pas accoster nulle part. Je veux dire, tu passes forcément par Gibraltar, faut que tu sortes de la Méditerranée, il n'y a pas 45 sorties, là. Donc, t'aurais pu t'arrêter en Italie, t'aurais pu t'arrêter, tu sais, en Espagne, bon, après ça, en France, peut-être, si vraiment, tu sais, bon, il y a quoi que ce soit, ou même encore une fois sur la côte atlantique, au Portugal, ou bon, ou ailleurs. Donc, on dirait qu'on voulait forcer la création d'un huis clos, et ça pas marché ou ça marche comme... C'est un peu comme quand tu fais un film avec qui se passe aujourd'hui et étrangement, tu te retrouves une place où il n'y a pas de signal cellulaire. Tu sais, c'est comme on va, dans les années 80, tu peux toujours faire un slasher dans un chalet dans le bois. Mais là aujourd'hui, il faut que tu dises ah ben il y a pas de réseau ou ah tu sais il y a une panne d'électricité donc on peut pas faire quoi que ce soit.
Mais c'est ça, agaçant. On dirait qu'ils ont voulu faire un peu comme Alien mais dans un bateau à l'époque. Mais dans Alien, ils sont au milieu de nulle part dans l'espace. Fait qu'il y a vraiment le côté, ils sont isolés, puis il y a aucun moyen de se sortir de ça. Ça crée quelque chose de vraiment claustrophobique. Mais comme tu dis, dans ce cas-là, ils sont en bateau, mais tu sais, ils sont pas au milieu de l'Atlantique ou peu importe. Ils sont quand même en Europe. Fait que c'est ça. Je pense que tu l'expliques bien que sûrement qu'ils auraient pu accoster quelque part finalement.
Oui, absolument. Mais bon, j'ai quand même apprécié le fait, tout à l'heure, j'en parlais, là, le phénomène inexpliqué, tu sais, que tu dis, bon, ben, ça se passe pas en 2023, ce film-là, c'est pas sur un paquebot transatlantique, c'est vraiment fin du 19e siècle, dans un monde où, bon, peut-être que tu dis, bon, les questions de vampires et tout ça, c'était peut-être des légendes, les sorcières, mais, cette idée-là, vraiment l'idée de Bram Stoker, qui était en tout cas certainement le premier exemple qui nous est resté de ce genre d'histoire-là dans la littérature contemporaine, ben c'est ça. Le film se passe en 1897. Ils savent pas ce qui se passe. Ils savent pas c'est quoi. Ils peuvent pas dire ah c'est un vampire. Et dans ce sens-là, je trouve que, tu sais, bon, ils essaient de trouver des façons de le combattre. Ils disent, bon, est-ce qu'on peut tirer dessus? Bon, ben, ça marche pas. Est-ce qu'on essaie d'autre chose? Bon, il y a personne qui a l'idée d'essayer de l'ail, par exemple. On sait pas si ça fonctionnerait. Il y a un moment donné, quelqu'un essaie avec une croix crucifix, ça marche pas. Ben, on se rend compte qu'ils se rendent compte assez vite que le soleil, ça marche. Encore une fois, là-dessus, ils font rien nécessairement. Toutes les scènes de combat avec Dracula, évidemment, ça se passe la nuit. Mais moi, je me disais, ben, tu sais, planquez-vous quelque part, barricadez-vous quelque part la nuit. Il viendra pas vous chercher, ou sinon, essayez de le retenir puis de l'empêcher de vous attaquer. Vers la fin du film, il essaie de sauver, en pleine nuit. Tu dis pourquoi t'attends pas le jour pour te sauver?
Ben oui.
Donc, mais bon. Qu'est-ce que t'as, on va changer de sujet un peu. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Liam Cunningham?
Ben, c'est comme je disais, moi je trouve que les personnages sont un peu interchangeables. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est super développé, qui est vraiment intéressant, mais. Bon, il y a quelques visages qu'on reconnaît, dont Liam Cunningham, que les fans de Game of Thrones connaissent. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça ajoute un petit quelque chose qu'on fait, ah, tu sais, il joue le capitaine, puis il y a une certaine prestance. Fait que ça, c'est quand même bien, mais c'est ça. C'est pas un personnage super complexe, là. Puis d'ailleurs, je voulais mentionner aussi, tu sais, Dracula, de ce qu'on en connaît, c'est un personnage qui est quand même fascinant, qui est terrifiant, mais séduisant en même temps. Mais là, c'est vraiment la version monstre.
Oui.
Puis, il y a jamais aucun dialogue. Il y a vraiment pas de personnalité. C'est vraiment juste une bébite, presque une chauve-souris humanoïde qui attaque. Fait que, tu sais, ça aurait pu être n'importe quel monstre. Tu sais, le fait que ça soit Dracula ou pas, on s'en fout un peu, là.
Effectivement, moi, je le voyais plutôt comme le fait qu'il faut qu'il se nourrisse pour reprendre des forces puis devenir un peu plus humain, entre guillemets. On le voit à la fin du film où il porte un costume, il porte des vêtements, puis il a l'air de se fondre un peu dans la foule à Londres. Mais bon, effectivement, ils l'ont vraiment joué slasher plutôt que... je me répète, mais je l'ai mentionné tout à l'heure, ça aurait pu être un drame psychologique, un film d'horreur psychologique où, tu sais, si tu dis, bon, la traversée dure 2 mois, ben, petit à petit, tu te rends compte que, bon, ils souffrent de solitude. Là, soudainement, tu sais, bon, comme dans le film, les animaux sont tués par on sait pas trop quoi. Puis là, tu te dis, OK, c'est-tu quelqu'un d'équipage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Il commence à souffrir, tu sais, a l'air d'être souffrant un peu. Puis là, petit à petit, il y a quelqu'un qui est mort. Puis là, y a-tu comme une manigance? Faut-il avoir un... Bon, il aurait pu vraiment jouer là-dessus longtemps. Puis après, soudainement, tu sais, bon, troisième acte, surprise, chauve-souris monstrueuse, commence à bouffer tout le monde. C'est OK. Et là, c'est un twist. Mais c'est... là, on est pogné avec quelque chose que le twist arrive rapidement. Et à chaque fois que à chaque fois qu'il y a une scène de combat, à peu près, ils sont sur le pont du bateau. Là, ils cherchent Dracula, puis là, soudainement, oh non, il est derrière nous ou il est au-dessus de nous autres. Là, t'es comme, combien de fois vous pouvez vous faire pogner, guys, là?
Puis le film est quand même, pour ce que c'est quand même long, c'est un bon 2 heures. Puis comme tu dis, c'est Dracula, il commence à attaquer assez rapidement. Fait que on se demande vraiment comment ils vont étirer ça sur 2 heures. Puis justement, je reviens là-dessus. Je trouve vraiment qu'il y a des longueurs, qu'ils étirent la sauce, que dans le fond, ça aurait pu être beaucoup plus court, plus rapide, plus rythmé. Puis c'est pas ça qu'ils ont fait, là.
Ben écoute, au moins on aura eu on aurait été semi-diverti pendant 2 heures. C'est pas le pire film qu'on a vu quand même.
Non, c'est pas le pire film. Je pense que j'ai mentionné quand même que c'est atmosphérique, puis visuellement, même si je trouve ça trop sombre, c'est quand même bien fait, puis il y a quelque chose qui marche, puis tu sais, bon, c'est répétitif. Tu mentionnais que Dracula apparaît tout le temps à peu près en arrière d'eux, puis tu sais, il y a un coup d'éclair, de tonnerre, puis Dracula est là, peu importe. Mais c'est quand même efficace, mais c'est ça, il aurait fallu quelque chose de plus. On a mentionné souvent que les personnages manque de viande, tu sais, il aurait fallu plus développer la psychologie, quelque chose qui ferait que, au-delà de juste le film de monstre, qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à regarder plus.
Ben écoute, peut-être la prochaine fois, on sait pas trop. Enfin, ben écoute, je te remercie quand même d'avoir pris le temps d'écouter ça pour le podcast, et j'ai déjà mentionné, mais je vais le redire, c'est que les films d'horreur, il en manque pas. Les films de peur, tout ça, l'Halloween, j'en vois passer plein. Et on a choisi celui-là parce que, bon, il y a aussi le fait que j'aime ça dormir après avoir écouté un film. Et c'est arrivé quelques fois, entre autres Smile, qui était même pas très bon, en fait. Mais ça m'arrive, j'écoute quelque chose, puis je dors pas. Fait quand c'est vraiment trop efficace comme film d'horreur, comme film de peur, après ça, je regrette mes choix de vie, donc autant j'aime ça faire le podcast, autant mon sommeil est important. donc c'est ça. Fait que j'ai pas pris quelque chose nécessairement léger pour me dire il faut absolument que ça soit léger, mais c'est ça. On a pris quand même. J'ai pas pris le pire truc. On n'a pas pris le nouveau ça, par exemple. Donc ça, je pense que ça
n'est pas. On n'est pas dans la grosse torture, puis ouais.
Non, la torture porn, moi c'est non en partant. Là, je refuse directement d'écouter ce genre de choses. Bref, ben écoute, merci quand même, Kevin. Ça a été. Ben, merci quand même. Merci, voilà. De t'être prêté au jeu.
Non, mais c'est correct. Je pense que souvent, quand on fait le podcast, on est souvent dans les coups de cœur. Puis quand on choisit les films, souvent on va vers des films qui nous font triper, tout ça. Oui. Mais de temps en temps, c'est normal qu'on choisisse un film puis qu'on fasse « Ah ouais, finalement, c'est un peu décevant, puis c'est peut-être pas si intéressant que ça, mais on peut pas tout aimer non plus, là. »
Non, absolument. Ben écoute, avant qu'on se laisse, est-ce qu'il y a quelque chose récemment que tu as vu et que tu as adoré ou que tu as trouvé justement moyen ou même horrible?
Faudrait, je pense, rapidement, qu'est-ce que j'ai vu? Ah, ben, c'est pas du tout dans l'Halloween et le cinéma d'horreur, mais, tu sais, mon gros coup de cœur que j'ai vu en salle récemment, c'est le nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, qui est, tu sais, autant que souvent on chiale que les films sont trop longs, tout ça, dans ce cas-ci, c'est un film de 3h26, puis je me suis pas ennuyé un seul instant. Tu sais, quand on a un cinéaste aussi brillant que ça, il réussit à nous raconter une histoire de façon captivante sur une super longue durée de même, puis je pense que j'en aurais pris plus.
Ben, j'ai très hâte qu'il s'en vienne sur Apple TV, parce que bon, il est en salle, je pense, pour un mois, puis après ça, il l'amène sur le service d'Apple. J'en ai lu des très, très, très bonnes choses, moi aussi. J'ai vu aussi des commentaires, même pendant qu'il tournait, des gens des Premières Nations. Parce que ça parle d'une histoire des Autochtones, bon, chez les Américains, mais vraiment des Premières Nations là-bas. Et des gens qui disent, ben, c'est très, très bien fait, ça nous respecte ça respecte notre histoire, on a été consultés, tout ça. Donc, et évidemment, la représentation, c'est essentiel, comme on le sait, donc au grand comme au petit écran. Donc, j'ai très, très hâte de voir ça. Il y a aussi quelque chose, les gens qui me suivent un peu sur Facebook, je fais régulièrement des annonces, qu'est-ce qui s'en vient au podcast et tout ça, et j'ai parlé pour cette semaine d'une surprise, peut-être à rembobinage, je t'en ai pas parlé parce que ça te concerne, en fait, je veux pas être méchant et dire ça te concerne pas, mais c'est c'est qu'en fait, j'ai écouté la série, c'est Mike Flanagan sur Netflix. Ça fait plusieurs années qu'il fait des séries d'horreur, de peur, là, dans le coin de l'Halloween. Et il a fait The Fall of the House of Usher, qui est sorti récemment, il y a peut-être 2 semaines. J'ai écouté ça avec ma sœur, en fait, à distance. On se parlait sur Messenger, on s'envoyait des mimes pendant que on écoutait les épisodes. Et si tout va bien, là, on essaie de se coordonner. Mais si tout va bien, pardon, ma sœur va être là, quand Camille.
Oh, Pézo, cool! Va être là.
Pardon?
C'est très cool, j'ai hâte d'entendre ça.
Ben, en tout cas, on a beaucoup apprécié l'un et l'autre. Déjà, je vous annonce que ça va être positif comme critique, mais c'est la première fois au podcast, donc on va voir comment ça se passe. Mais c'est ça, si tout va bien, vendredi, on va avoir une critique, une espèce de troisième partie d'Halloween, comme un peu on avait fait l'année passée. Évidemment, on va être en novembre rendu là, mais bon. Vous savez comment ça fonctionne. Donc voilà, à surveiller, possiblement vendredi, donc, une critique de Fall of the House of Usher de Mike Flanagan, qui est une série sur Netflix. Kevin, encore une fois, merci. Merci évidemment à tous ceux qui sont là pour les écouter. On se retrouvera bien sûr, ceux qui aiment les films d'horreur, il y en aura bon tout au long de l'année. On va peut-être en faire quelques-uns là, hors spécial Halloween, mais bien sûr, le spécial Halloween va revenir donc l'année prochaine. Avant de vous laisser, je n'ai pas fait l'annonce encore officielle, je vais le faire maintenant. Le Patreon de Pieuvre va se terminer. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ce sont des choses qui arrivent et c'est pas grave, on continue quand même. Ce qui veut dire que toi et moi, Kevin, nos épisodes, qui étaient les épisodes bonus, vont rester, mais format, ben, enfin, pas nécessairement au début de chaque mois, mais c'est ça. Vous allez avoir accès aux films en même temps que tout le monde, donc il n'y aura pas de primeur pour les gens sur Patreon. Et ça veut dire aussi qu'on va vous inviter à voter pour le film qui vous intéresse, le film un peu plus vintage ou rétro, ou peu importe comment on le présente. Ça va être sur notre page Facebook, donc sur la page du podcast. C'est une excellente façon, une excellente idée d'ailleurs de vous abonner à la page du podcast, donc sur Facebook, pour pouvoir participer à ça. Donc voilà, je pense que ça fait le tour des annonces. On se revoit très bien. En fait, on se retrouve, revoit, tout est relatif parce que bien sûr, vous ne faites que nous entendre, mais on se retrouve très, très, très bientôt. Et en attendant, bien sûr, abonnez-vous à l'infolettre de Pieuvre. C'est sur le site, dans la colonne de droite, il y a un formulaire. Ça prend quelques secondes et ça vous donne accès à tout. Donc, nos critiques, nos articles, nos épisodes de podcast. Et sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.